dans Radio Fabrique. On colle des mots. On essaye les micros.
Bonjour. Aujourd'hui.
Attends.
Bonjour. Aujourd'hui, on va interviewer une astrophysicienne qui travaille au laboratoire d'astrophysique de Marseille.
Dans Radio Fabrique.
On essaye la technique.
C'est pas grave. Vous voulez la refaire?
Comment on fait? Comment ça se fait?
Radio Fabrique. Écoutez les créations sonores de la vallée.
Enquête d'histoire.
Podcast des quatrièmes.
Enquête d'histoire.
Figure du 19e siècle.
Un podcast fait par les quatrièmes du Collège Armorin.
Bonjour, nous sommes des élèves de 4e 3 et suite à la visite du musée Carnavalet à Paris, nous avons pu interviewer des personnes et rassembler nos idées pour réaliser ce podcast.
Madame de Sévigné est née en 1626 à Paris, de son vrai nom, Marie de Rabutin Chantal.
Devenue veuve assez jeune, elle est très attachée à sa fille. Quand sa fille se marie avec Monsieur d'Esgrignon et part avec lui dans la Drôme, Madame de Sévigné est très triste.
Donc elle lui écrit des centaines de lettres, elle y en a écrit à peu près 2 par semaine en moyenne.
De haute noblesse, elle fréquente la cour à Versailles et habite une des plus belles demeures de Paris, l'hôtel Carnavalet.
Il devient plus tard le musée Carnavalet. Nous l'avons visité. Il contient encore aujourd'hui le bureau de la marquise, ses portraits et même quelques-unes de ses lettres originales.
Toutes les lettres qu'elle écrivait étaient privées. Et ce n'est qu'en 1734 qu'elles furent publiées par la petite fille de la marquise. Nous avons imaginé un échange de lettres entre Madame de Sévigné et sa fille, la comtesse de Grignan.
Ma chère mère, je viens vous demander des nouvelles de votre entourage et de Paris. J'espère que vos 7 chiens se portent bien. Comment se nomme-t-il ?
Je reçois votre lettre, ma chère enfant, et j'y fais réponse avec précipitation parce qu'il est tard. Voulez-vous savoir leur nom ? Ils se nomment Spatou, Charmante, Charmillon, Toutille, Stopdille, Mimiette Mignon et Mignonne.
Le nom de Charmante me plaît. Quelles sont les nouvelles tendances à Paris ? Car ici, dans la Drôme, il est difficile de suivre les nouveaux caprices des Parisiennes.
À Paris, les couleurs de ce printemps sont davantage tournées vers le mauve. Par ailleurs, vous devriez me rejoindre à Paris, dans mon hôtel Carnavalet, ou plutôt Carnavalette, car vous savez que je l'appelle comme ça. Dans votre château de Grignan, dans la Drôme, il fait trop froid et il y a trop de vent. Vous allez attraper mal.
Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas attraper mal car je me couvre bien.
Si je vous écrivais toutes mes rêveries, je vous écrirais toujours les plus grandes lettres du monde. Mais cela n'est pas bien aisé. Ainsi, je me contente de ce qui peut s'écrire et je rêve tout ce qui peut se rêver. J'en ai le temps et le lieu.
Ma chère mère, vous m'écrivez bien assez de lettres et c'est toujours un plaisir pour moi de les lire le matin en buvant mon chocolat chaud. Vous m'en avez envoyé plus de 500 depuis que je suis à Grignan en compagnie de mon époux.
Ce que vous me dites me ravit, car dans ma demeure, la plus élégante, la plus somptueuse, la plus grandiose, la plus merveilleuse, la plus éclatante, la plus triomphante de tout Paris, je me sens si triste, parfois, loin de ma famille.
Je me sens également si seule, parfois, loin de vous, malgré tout le divertissement que m'apporte mon cher et tendre époux. Ouvrez bien grand vos yeux et vos oreilles pour nous raconter encore plus d'anecdotes sur la cour du roi Louis XIV.
À présent, nous vous proposons d'écouter l'interview des guides du musée Carnavalet.
Alors, j'ai choisi ce métier pour être au contact du public. Ça fait aussi partie de mes études supérieures, le BTS Tourisme. Donc, je trouve que ça, c'est une très belle issue, je trouve. Et je suis très contente de travailler au contact du public. Ça nous permet de parler en français et en plusieurs langues également. Donc, c'est un très bel atout aussi.
Est-ce que vous avez une anecdote à raconter sur le musée ?
Alors oui, comme on reçoit beaucoup de public, ça peut arriver que des gens viennent et cherchent un portrait de leur ancêtre, par exemple. Ancêtre célèbre, je me rappelle par exemple Lavoisier, le célèbre chimiste, il avait des descendants qui étaient donc, je pense, d'origine allemande, et il cherchait le portrait de Lavoisier. Malheureusement, il est né dans les réserves, mais voilà, c'est toujours agréable de voir des gens sur la recherche de leurs ancêtres.
Bonjour, alors je m'appelle Charlotte, voilà, je suis agent d'accueil au musée Carnavalet. Donc j'aime beaucoup la partie révolutionnaire, notamment, que vous venez de visiter, qui est très riche en histoire et il y a tout le temps des choses à apprendre dans ce musée, donc je suis vraiment très heureuse d'y travailler. Donc quand je suis à la Révolution, bon, j'ai pas forcément le temps de tout lire, mais je sais que je découvre toujours des choses. Et puis vivre, en fait, travailler auprès d'objets qui ont été... qui sont vraiment, qui ont une histoire, c'est très 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 important. Et j'aime aussi le 19e siècle, il y a la chambre de Marcel Proust au premier étage qui est superbe. Il y a aussi plein de beaux tableaux, en fait, plein de belles toiles. Et il y a toute la construction de Paris aussi, du quartier d'Haussmann, voilà, qui est intéressante. En fait, il y a plein de choses super belles dans ce musée. Donc, c'est difficile de choisir, vraiment. Il y a aussi un très beau jardin, il y a un sous-sol avec les antiquités qui est super beau. Donc, voilà, j'ai pas de... Alors, il y a aussi la bijouterie Fouquet que j'aime beaucoup, qui est du 19e siècle, décorée par Alphonse Mouchat, donc qui est magnifique. En fait, j'ai du mal à choisir. Voilà, mais la Révolution, c'est très important aussi.
Gabrielle, Anaë, Ombline, Viola, nous remercions Madame Garret, notre professeure de français,
France de Radio Saint-Ferréol,
Madame Chambert, la documentaliste d'Art Morin,
et aussi les guides du musée Carnavalet.
Bonjour à tous, dans notre podcast. Il a été préparé suite à un voyage à Paris des classes de 4e 3 et 4e 4 de la cité scolaire Art Morin, du 11 au 15 mars. J'espère que ça vous plaira.
Nous sommes en 1867, dans une ruelle de la ville de Paris. Le peintre Claude Monet se dirige vers les jurys du salon. Il est très en colère car les jurys viennent de refuser son œuvre « La femme au jardin ». Car elle montre pour la première fois la lumière naturelle et changeante. Il arrive devant la porte du salon.
Bonjour monsieur, c'est pourquoi ?
Je voudrais voir les jurys des salons.
Je m'en vais voir s'ils peuvent vous recevoir.
J'ai hâte de leur dire ce que je pense.
Les jurys des salons peuvent vous recevoir. Venez, suivez-moi.
Après avoir traversé de nombreux couloirs, ils arrivèrent enfin dans les salons des jurys. Claude Monet s'exclame.
Comment osez-vous refuser mon tableau ?
Calmez-vous, voyons.
Vous n'avez même pas osé venir me le dire en face. Vous ne savez pas faire mon métier.
Comment pouvez-vous dire ça ? Votre peinture n'était même pas finie et ne montre pas le réel.
Ma peinture montre un moment dans le temps. Mon prochain chef-d'œuvre vous montrera les couleurs et les touches de pinceau.
Voici la description du tableau Impression Soleil Levant. C'est un tableau de Claude Monet. Au premier plan, nous voyons une barque. Il y en a une deuxième plus loin. Elle flotte sur la mer. Au deuxième plan, le port du Havre au petit matin dans la brume. Et au dernier plan, le soleil qui se lève. Le port, la barque ainsi que les rayons du soleil se reflètent dans la mer. Le ciel et le soleil sont orange. La plus grande partie du tableau est sombre.
Que vous évoque le tableau Impression Soleil Levant ?
Une impression de soleil levant. Quelque chose de fugitif, d'éphémère, de fugace. Une impression du moment. On a l'impression que... d'une seconde à l'autre, le paysage va changer. Et voilà, c'est ça le sens de l'impressionnisme, en fait. Au début, ça a été très moqué. Hein. On m'a accusé de ne pas avoir terminé son tableau, d'avoir été paresseux. Et les gens n'avaient pas compris que ce qu'ils voulaient, en fait, c'était juste montrer un moment... voilà, oui, c'est ça, fugace, un moment spontané. Comme...
Alors moi, il m'évoque quelque chose d'assez triste et mélancolique. Mais en même temps, assez apaisant. J'aime bien le regarder parce que les couleurs sont très douces.
Que pensez-vous du musée Marmottan ?
Alors, c'est un très joli musée avec toute une collection assez impressionnante d'ailleurs, notamment des œuvres de Claude Monet. C'est encourageant de venir ici. Pour prendre de la perspective, j'invite les gens en tout cas à prendre du recul parce que souvent quand on regarde les tableaux de Monet de trop près, on ne comprend pas. Et si vous... Par exemple, vous avez les roses ou l'allée de roses qui est là-bas. Si vous regardez ces tableaux, c'est très profond, c'est très précis. Mais quand vous les regardez de trop près, en fait, vous ne les voyez pas. Donc Monet nous invite en fait, à prendre du recul sur la vie, sur le paysage. Voilà.
J'aime beaucoup ce musée parce qu'il est vraiment à taille humaine et il présente des collections de meubles et d'objets, notamment... de l'époque Empire, magnifique. Et puis, il y a des expositions de peinture. Claude Monet, bien sûr, avec l'impressionnisme. C'est un musée très agréable.
Ce podcast a été réalisé par
Léla, Adèle, Mélie
et Arthur. Et nous remercions Franck de Saint-Ferréol, Madame Chambert du CDI et notre professeur de français, Madame Garret, qui nous ont aidés. Et sans eux, ce projet n'aurait pas pu être possible.
Merci de nous avoir écoutés.
Enquête. Histoire.
Figure du 19e siècle.
Un podcast fait par les 4e du Collège Armorin.
Bonjour, nous allons vous présenter un podcast sur la Tour Eiffel. Laissez-nous d'abord vous présenter la Dame de Fer. La Tour Eiffel est située sur le Champ de Mars à Paris. Elle a été construite grâce à l'ingénieur Gustave Eiffel pour l'exposition universelle. Elle a été inaugurée le 31 mars 1889. Elle est grande de 330 mètres. Elle a été construite en charpente métallique. Elle est plutôt légère. Elle ne pèse que 10 100 tonnes. Aujourd'hui, elle est le symbole de Paris. Mais à l'origine, les Parisiens ne voulaient pas de la Tour Eiffel car ils trouvaient qu'elle gâchait le paysage. Les artistes, en particulier, détestaient la Tour Eiffel. Les écrivains se sont mobilisés contre elle. Maupassant disait même « Cette haute et maigre pyramide d'échelle disgracieuse et géante ». Nous avons imaginé un dialogue entre l'auteur du roman Bel Ami et Gustave Eiffel.
Guy de Maupassant connaissait Gustave Eiffel, mais Gustave Eiffel ne connaissait pas Guy de Maupassant. Un jour, où Guy de Maupassant mangeait au restaurant de la Tour Eiffel, comme d'habitude, Gustave Eiffel le voit et s'approche.
Bonjour, j'ai pu voir que vous êtes notre meilleur client.
Oui, je viens souvent, mais vous ne serez pas Gustave Eiffel par hasard ?
Si, et vous ? Qui êtes-vous ?
Je suis Guy de Maupassant.
Vous êtes un écrivain, je ne me trompe pas. J'aimerais avoir votre opinion. Je pense que la Tour Eiffel est désormais le symbole de la France. Et vous, qu'en pensez-vous ?
Moi, je pense que c'est une haute et maigre pyramide d'échelle disgracieuse géante. Elle devrait tout de suite être détruite.
Vous exagérez. Ma tour est la meilleure car elle est construite en fer. Si elle était en pierre, la réalisation d'une tour de 350 mètres aurait été impossible.
J'en doute fort. De plus, la pierre est un matériau plus noble que le fer.
Ah oui ? Et si elle est aussi laide que ça à ma tour ? Pourquoi y venez-vous manger ?
Car c'est le seul endroit où je ne peux pas la voir.
Je vois que ça ne sert à rien de parler avec vous, car vous ne comprendrez jamais mes arguments et mes idées. Je préfère m'en aller.
Puis la polémique a diminué. De nombreux artistes lui ont rendu hommage, les peintres par exemple. Marc Chagall, Paul Signac et Robert Delaunay l'ont représentée dans leurs tableaux de manière très positive. Pour le cinéma, elle est un personnage à part entière. Elle est présentée dans de nombreux films, comme Un monstre à Paris qui parle d'une histoire d'amour et dans le film de James Bond, Dangereusement vôtre. Aujourd'hui, on la protège et on veut la laisser comme elle est. Par exemple, pour les Jeux Olympiques, le maire de Paris voulait laisser les anneaux qui avaient été installés pour l'occasion sur la Tour Eiffel, mais les anneaux ont été enlevés à la fin des Jeux.
Pour terminer cette présentation, voici quelques anecdotes sur la Tour Eiffel. Franz Reichelt a voulu prouver qu'il pouvait voler et il a sauté de la Tour Eiffel. Il en est mort, on l'a surnommé l'homme-oiseau. Un escroc, Victor Lusty, a vendu la Tour Eiffel pour 100 000 francs à un ferrailleur. Il a fini en prison et il y meurt. En 1947. Le podcast a été réalisé par Bastien, Mayel, Maceo, Kezia et Fakri. Nous voulons remercier France de Radio Saint-Ferréol, Madame Chambert, notre documentaliste, et Madame Garin, notre professeur de français.
Merci de nous avoir écoutés.
Bonjour, nous sommes des élèves du Collège Armorin, Dijadora, Colette, Annette et Léla. Nous allons vous présenter un podcast sur Victor Hugo et la cathédrale Notre-Dame. Car nous, revenus d'un voyage à Paris, nous avons visité ces deux lieux.
Lorsque nous avons visité la maison de Victor Hugo, nous avons tout de suite été frappés par une forte odeur de renfermé. Nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de statues et de portraits de lui-même. Il y avait un bureau assez célèbre, la table aux encriers. Les encriers ont été donnés par des auteurs célèbres, Alphonse de Lamartine, Alexandre Dumas et Victor Hugo lui-même. Elle a été créée pour être vendue à Guernesey au profit des enfants pauvres. N'arrivant pas à la vendre, les Hugo ont décidé de l'acheter. Il y avait également le lit dans lequel il est mort. Nous avons aussi visité la cathédrale, elle était très lumineuse. Nous avons pu ressentir une ambiance apaisante à l'intérieur. Elle était très impressionnante et grâce à la rénovation, on a eu l'impression qu'elle était vieille de seulement quelques années. Nous avons pu imaginer un dialogue entre Victor Hugo et son éditeur.
J'aimerais beaucoup écrire un roman sur la cathédrale de Notre-Dame.
Tu voudrais écrire un roman sur cette vieille cathédrale ? Mais pourquoi ?
J'aime beaucoup ce lieu et j'ai plein d'idées. Il y aurait une bohémienne du nom Esmeralda, un bossu...
Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu vas perdre ton temps et ton énergie.
Tu verras, je suis confiant et je pense que je peux sauver la cathédrale de l'oubli.
Je ne sais pas, il faut que j'y réfléchisse.
Mais pourtant, je ne croyais pas à mon dernier roman, Le dernier jour d'un condamné. Et pourtant, c'était un grand succès.
C'est vrai qu'après la bataille d'Hernani, tu es vraiment devenu le chef de file des romantiques.
Aie confiance en moi, laisse-moi accomplir ce projet.
Bon, d'accord. Mais tu as intérêt à ce que les ventes soient bonnes.
Elles le seront, c'est sûr.
Merci de nous avoir écoutés et merci à Madame Garé, Madame Chambert et à Franz de Radio Saint-Ferréol qui nous ont aidés pour ce projet.
Enquête d'histoire.
Podcast des quatrièmes.
Bonjour, nous sommes
Elouan,
Elliot,
Stéphane,
Russe
et Manoa. Suite à un voyage à Paris du 11 mars au 15 mars 2025, nous allons vous présenter un podcast sur les grands magasins.
Le podcast que nous allons vous présenter est un dialogue entre Émile Zola, qui est un grand écrivain réaliste, connu notamment grâce au Bonheur des Dames, et Aristide Boursicot, créateur du Bon Marché et des grands magasins.
Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous me parler de votre magasin, s'il vous plaît ?
Avec plaisir. Tout d'abord, l'ossature. Elle est entièrement en fer, car c'est un matériau plus durable que la pierre. La structure s'élève sur plusieurs étages, avec des passerelles et des escaliers en fer jetés d'un bout à l'autre de l'édifice.
Mais les bourgeois ne risquent-ils pas de s'épuiser avec toutes ces marches ?
C'est pour cela que j'ai décidé d'investir dans des ascenseurs qui permettent l'accès à tous les étages. J'ai aussi décidé de vitrer les cours transformées en hall pour plus de luminosité. Aussi, grâce à la taille de l'édifice, j'ai pu installer de nombreux rayons. Il y en a 39 au total.
C'est beaucoup. Votre magasin est vraiment le temple de la consommation.
Vous avez raison, mais il n'est pas que cela. Il y a aussi de nombreuses salles de jeux qui contiennent des billards, des tables de tric-trac, des tables d'échecs. Nous proposons également des cours de langue vivante, de grammaire, d'arithmétique et de géographie. Et même des leçons d'équitation et d'escrime pour les plus jeunes. Sans oublier une bibliothèque avec 10 000 volumes. Nous n'oublions pas non plus nos employés. Pour eux, nous avons ajouté un médecin qui donne des consultations gratuites, des bains, des buffets, des salons de coiffure et même un dortoir. Les employés se sentent mieux ici que dans leur demeure, je peux vous l'assurer.
Tout cela est vraiment extraordinaire.
Mais ce n'est pas tout. J'ai une idée bien meilleure pour faire plaisir aux gentes dames et à leurs enfants. J'ai décidé de créer un rayon uniquement destiné à l'accoutrement de leurs enfants.
Et les maris ne risquent-ils donc point de s'ennuyer avec toutes ces choses réservées aux femmes et aux enfants ?
Non, j'ai tout prévu. J'ai ouvert un buffet où l'on donne gratuitement du sirop et des biscuits. Un salon de lecture, une galerie monumentale qui propose des expositions de tableaux.
Je vois que vous avez vraiment pensé à tout. Mais avez-vous pensé aux façons de vous faire connaître ?
Évidemment, je suis le roi de la publicité. Pour diffuser des réclames facilement, je me sers des enfants. À chaque achat, je leur donne un ballon rouge avec les initiales du magasin. Et nous envoyons des catalogues pour la vente par correspondance.
Tout cela est fabuleux. Je pense que vous avez une toute nouvelle manière de vendre les choses.
Je suis sûr qu'en 2025, ces techniques seront encore utilisées.
Nous remercions Franz de la radio Saint-Ferréol, Madame Chambert, documentaliste au Collège Armorin, et Madame Garé, professeure de français.
Enquête d'histoire.
Nous vous remercions de nous avoir écoutés.
Podcast des quatrièmes.
Enquête
d'histoire.
Figure du 19e siècle.
Un podcast fait par les quatrièmes du Collège Armorin.
Bonjour, nous sommes Adriano Rochette,
Émile Vuillet,
Hector Poulain
et Lucas Alex.
Des élèves de 4ème 3. Et suite à notre voyage à Paris, nous allons vous présenter un podcast sur le musée d'Orsay. Nous sommes au 21e siècle et deux jeunes parisiens décident de rester au musée d'Orsay pour invoquer les esprits des artistes de l'époque.
Esprit, êtes-vous là ? Entendez-vous notre appel ?
Si vous nous entendez, répondez-nous.
Tout d'un coup, un esprit sort du sol. Ils ont réussi à invoquer l'artiste Gustave Courbet, mort le 31 décembre 1877.
Ah, mais où suis-je donc ?
Vous êtes au musée d'Orsay, monsieur Courbet.
Le musée d'Orsay ? Qu'est-ce donc ? Ce n'est pas la gare d'Orsay ?
Si, ceci est la gare d'Orsay, mais elle est devenue musée. C'est en 1897 que la compagnie des chemins de fer d'Orléans acheta l'état des terrains afin d'y faire une gare. La gare d'Orsay est inaugurée en 1900.
Mais devenue rapidement trop petite, elle est abandonnée en 1939 et connaît des utilisations diverses comme par exemple, elle fut utilisée successivement comme centre d'expédition des colis aux prisonniers pendant la guerre, puis comme centre d'accueil des prisonniers à la libération.
Des années plus tard, Valéry Giscard d'Estaing sauva donc la gare d'Orsay avec le projet d'y installer le musée d'Orsay que nous connaissons aujourd'hui.
Et mes tableaux, dans tout ça?
Vos tableaux sont à présent exposés dans ce musée et sont appréciés par le public.
Oh, je suis tellement heureux de voir l'enterrement à Ornon et l'atelier du peintre exposé dans un musée. Car à mon époque, ils avaient été refusés par l'académie parce qu'ils étaient soi-disant trop réalistes et que les personnages peints étaient trop laids, m'obligeant à créer ma propre exposition. Mais maintenant, ce temps est révolu et je peux partir en paix.
Nous remercions France de Radio Saint-Ferriol, Madame Chambert, documentaliste au Collège Armorin.
Enquête d'histoire.
Et Madame Garret, prof de français à Armorin.
Podcast des quatrièmes.
Enquête
d'histoire.
Figure du 19e siècle.
Un podcast fait par les quatrièmes du Collège Armorin.
Bonjour, nous sommes trois élèves de 4e 4 du Collège Armand à Cré. Je suis Lénie.
Je m'appelle Samuel.
Et je me nomme Valentin.
Nous revenons d'un voyage à Paris qui a eu lieu en mars 2025 et nous allons vous présenter l'hôtel Marmottan à travers un dialogue entre Claude Monet et Georges Clemenceau. Claude Monet travaille dans le jardin de l'hôtel Marmottan. Il commence une peinture devant son chevalet au calme. Georges Clemenceau en visite pour prendre des nouvelles le rejoint.
Bonjour mon vieil ami.
Bonjour, quelle belle surprise. Est-ce que tu t'es remis de cette atroce guerre? Les années 1914-1918 ont été si terribles.
Heureusement, la guerre est bien finie, et je m'efforce d'oublier cette sombre période. Que peins-tu, mon ami?
Je viens de finir ma série des nymphéas, et je m'essaie à reproduire cette magnifique glycine.
Ton art de l'impressionnisme me battra toujours, je suis sûr que l'on parlera de toi pendant des siècles. Regarde, j'en ai même la preuve. Avançons dans le temps, en 2025 par exemple.
Nous avons interrogé M. Rougerie, un professeur d'histoire-géographie à Armorin.
Qu'est-ce que les œuvres de Claude Monet vous inspirent pour vous?
Alors, la plupart des œuvres de Claude Monet se déroulent dans un cadre naturel qui rappelle les grands espaces, le printemps par exemple, mais également l'hiver avec son train qui se trouve derrière moi. Et non, ce que ça m'inspire, c'est une idée de liberté, de mouvement qui est liée à l'impressionnisme.
Merci beaucoup. Au revoir.
De retour à l'hôtel Marmottan avec nos deux personnages historiques.
Effectivement, tu as raison. J'ai bien fait de me passionner pour la peinture. Et d'ailleurs, cela me fait plaisir de constater que l'hôtel de mon vieil ami est devenu un musée qui porte son nom, rempli d'œuvres de l'impressionnisme, dont celles que je lui léguais.
Je suis fort heureux de constater que ton huile sur toile, impression sur le vent, a donné naissance à un nouveau genre artistique, qui j'espère sera apprécié de tous.
L'avenir n'est pas si sombre si l'art continue d'exister dans le cœur de nos descendants.
Nous finirons sur cette anecdote. Lors des funérailles de Monet, Clemenceau a remplacé le drap funéraire noir par une toile de coton en couleurs violette et d'hortensia, disant « pas de noir pour Monet ». Revenu dans le présent, les élèves de 4e 4 vous remercient d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Nous remercions aussi M. Rougerie qui a répondu à nos questions, France de Radio Saint-Ferréol, Mme Chambert, notre documentaliste, et Mme Garret, notre professeur de français.
Enquête d'histoire.
Bonjour, nous allons vous présenter un podcast fait par Léa, Louise, Mila, Léonie et Élonie de 4e 4 sur Madame de Sévigné et sa demeure Carnavalet qui est devenue un musée.
Ce musée est dans Paris, c'est le musée Carnavalet. À l'intérieur, on y voit des portraits de Madame de Sévigné et sa fille. Il y a aussi des meubles comme son secrétaire qu'elle utilisait pour des lettres.
Le musée Carnavalet était un hôtel particulier où était logée Madame de Sévigné. Le musée porte ce nom car Madame de Sévigné appelait son hôtel particulier Carnavalette.
Madame de Sévigné est née en 1626 à Paris. Elle a été veuve assez jeune. Elle habitait à Carnavalet. Sa fille habitait au château de Grignan dans la Drôme. Madame de Sévigné a envoyé à sa fille de nombreuses lettres dans lesquelles elle racontait notamment ce qui s'est passé à Versailles dans la cour du roi Louis XIV.
Et voici un extrait d'une de ses lettres.
Je m'en vais vous mander la chose la plus étonnante,
la plus surprenante,
la plus merveilleuse,
la plus miraculeuse,
la plus triomphante,
la plus étourdissante,
la plus inouïe,
la plus singulière,
la plus extraordinaire,
la plus incroyable,
la plus imprévue,
la plus grande,
la plus petite,
la plus rare,
la plus commune,
la plus éclatante,
la plus secrète jusqu'à aujourd'hui,
la plus brillante,
la plus digne d'envie.
Enfin, une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans les siècles passés.
Encore, cet exemple n'est-il pas juste ?
Une chose que nous ne saurions croire à Paris.
Comment la pourrait-on croire à Lyon ?
Une chose qui fait crier miséricorde à tout le monde.
Une chose qui comble de joie Madame de Rouen et Madame d'Autrevieux.
Une chose enfin qui se fera dimanche,
où ceux qui la verront croiront avoir la berlue.
Une chose qui se fera dimanche
et qui ne sera peut-être pas faite lundi.
Je ne puis me résoudre à la dire.
Devinez-la.
Je vous la donne en trois.
Jetez-vous votre langue au chien.
Eh bien,
il faut donc vous la dire.
Monsieur de Lauzun épouse dimanche au Louvre. Devinez qui ?
Mademoiselle.
La grande mademoiselle.
Mademoiselle.
Fils de feu, monsieur.
Mademoiselle.
Petite fille de Henri IV.
Mademoiselle de.
Mademoiselle de Dombes.
Mademoiselle de Montpensier.
Mademoiselle d'Orléans.
Mademoiselle.
Cousine germaine du roi.
Mademoiselle.
Destinée au trône.
Mademoiselle, le seul parti de France qui fut digne de monsieur.
Nous souhaitons remercier notre merveilleuse prof de français, Madame Garé,
Madame Chambert, documentaliste, et France de Radio Saint-Ferréol.
Bonjour, nous sommes Benjamin, Manon, Renan et Démis de la classe de 4e 4. Et nous revenons d'un voyage à Paris qui a eu lieu en mars 2025. Nous avons réalisé un podcast sur les grands magasins. Mais d'abord, que sont les grands magasins ? Au 19e siècle, les grands magasins deviennent des cathédrales du commerce moderne. Ils sont construits à l'origine pour que les puissants bourgeois puissent acheter des produits dans les meilleures conditions possibles. Des centres commerciaux ont été réunis en de grands bâtiments. Les grands magasins étaient remplis d'animations et de buffets gratuits pour attirer la clientèle avec de nombreux employés.
Bonjour, j'aimerais acheter l'article numéro V26, s'il vous plaît.
Oui, tout de suite.
Je voudrais 2 mètres, s'il vous plaît.
Ça va coûter 26 francs 50.
Merci, je prends. Merci, au revoir.
Nous avons alors imaginé un dialogue entre l'écrivain Émile Zola, qui prépare un livre dont l'intrigue se passera dans un grand magasin, et le propriétaire du bon marché, Aristide Boussicot. Émile Zola.
Bonjour, le prochain livre de ma série, Les Rogons Marcard, va se passer dans un grand magasin. J'ai besoin de me documenter en tant qu'auteur réaliste. Je dois donner une image précise et fidèle de la réalité. Pouvez-vous me donner des détails, puisqu'avec votre femme, vous avez fondé un magasin très novateur.
Vous voulez en savoir plus sur mon bon marché ? Avec plaisir, posez-moi vos questions.
Quelles sont les nouveautés de votre magasin ?
L'objectif dans les magasins, c'est que les clients reviennent. J'ai donc installé des buvettes, j'offre des cadeaux. Dans un magasin, le confort des clients est important. Il doit faire chaud en hiver et froid en été. Il faut des endroits où l'on peut se reposer.
Comme des canapés ?
Comme des canapés. Il est important de se sentir bien et que le décor soit chaleureux et soigné. Pour cela, on a fait des escaliers avec des marches en velours et on a aussi des ascenseurs capitonnés.
Merci pour tout. Ces informations que je vais pouvoir intégrer dans mon roman. J'ai même déjà trouvé un nom. Au bonheur des dames.
Nous remercions France de Radio Saint-Ferréol, Madame Chambert, notre documentaliste, et Madame Garé, notre professeur de français.
Enquête d'histoire.
Pour nous avoir aidé à former ce podcast. Merci de nous avoir écoutés.
Podcast des 4e.
Enquête
d'histoire.
Bonjour, nous sommes 4 élèves de 4e du collège Armorin de Cré, Noélie, Leïla, Anaë et Melinda. Nous avons fait un voyage à Paris pour approfondir notre culture et nous avons réalisé des podcasts sur différents sujets. Nous allons aujourd'hui vous présenter un podcast sur la maison de Victor Hugo.
Nous sommes partis 3 jours, du 11 mars jusqu'au matin du samedi 15 mars. Nous avons visité plusieurs musées et monuments dont la maison de Victor Hugo. La maison se situe au 6 Place des Vosges, anciennement Place Royale à Paris, dans le 4e arrondissement. Elle est visitée par plus de 200 000 visiteurs par an et conserve plus de 50 000 œuvres.
Nous avons visité la maison sans guide, nous étions accompagnés de nos professeurs et nous avions un questionnaire à compléter. Sa maison est composée de 7 pièces, son antichambre, le salon rouge, le salon chinois, 2 pièces qui évoquent son exil de 1852 à 1870 avec toute une pièce qui représente son exil à Guernesey. Son cabinet de travail et la chambre là où il est mort le 22 mai 1885. La maison regroupe le mobilier et les objets de ses 2 maisons, celle de Guernesey et de Paris.
On y retrouve plusieurs sculptures, tableaux et décors, notamment dans le salon chinois où on retrouve des assiettes et des sculptures chinoises. nous avons pu interviewer Madame Rosière, bibliothécaire à la maison de Victor Hugo.
Est-ce que Victor Hugo s'est servi de sa table aux quatre encriers ?
Je ne pense pas. C'est un peu compliqué de se servir de cette table. C'est plutôt un mobilier décoratif qui fait référence à une vente aux enchères. À une demande de Victor Hugo auprès d'amis écrivains, Alexandre Dumas, Georges Sand, Lamartine, pour qu'ils, à travers le don de leurs encriers, donc, puissent constituer cette table qui ensuite était destinée à être vendue aux enchères pour alimenter des fonds pour le dîner des enfants pauvres à Guernesey.
Ok, merci. Combien de temps il a vécu dans sa maison à Paris ?
Alors ici, place des Vosges, au deuxième étage, dans l'appartement donc, qu'il est possible de visiter, il a vécu de 1832 à 1848, donc 16 ans.
Ok.
Il a eu bien d'autres habitations à Paris. Il était locataire ici.
Est-ce que vous savez pourquoi... dans son salon, il y a des initiales VH et JD.
En fait, c'est plus qu'une signature chez Victor Hugo. Le fait de graver ou de à l'encre comme ça, jouer avec ses initiales et même son nom. Parfois, le nom et le prénom sont entièrement développés dans le dessin, pas que dans les décors. Et donc, son nom, son prénom font partie de la composition du dessin.
Et pour la fin, est-ce que vous aurez une anecdote qui vous aurait marqué pendant vos années de travail ici ?
Ça fait 4 ans que je suis là. J'avais organisé avec deux classes de 4e un programme qui s'appelait « L'art pour grandir » et qui consistait en fait à travailler sur deux discours de Victor Hugo, le discours sur le suffrage universel et le discours sur la misère. Et à la suite de ce travail, avec un professeur de théâtre, ils ont restitué théâtralement ces deux discours. Et c'était vraiment un grand moment, c'était dans le salon rouge de l'appartement. Et donc les deux classes ont déclamer ces discours de Victor Hugo. Et on s'est rendu compte que le sujet était très actuel sur faut-il ou pas voter, pourquoi faut-il voter, etc. Le sens du vote.
Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Nous voulons remercier Franz Velier de Radio Saint-Ferréol, Madame Garret, notre professeur de français, Madame Chambert, notre documentaliste, et Madame Rosière, bibliothécaire à la maison de Victor Hugo, qui a gentiment répondu à nos questions.
Bonjour, nous sommes des 4e du collège Art Morin. Nous sommes allés à Paris en mars 2025 et nous avons réalisé un podcast sur le musée d'Orsay. Nous avons d'abord interrogé des visiteurs du musée d'Orsay.
Un mouvement
qui a été révolutionnaire à l'époque.
Mais quand même, qui a été, au début, il n'était pas apprécié. Il a fallu que ce soit les Américains qui nous achètent toutes les toiles pour que, enfin, les Français soient reconnus.
Ils ont eu beaucoup de mal à...
Ils ont tous souffert. Beaucoup souffert de la pauvreté.
Ils n'ont pas vécu de leur art.
Ils n'avaient pas de succès à l'époque. Toutes leurs toiles ont été refusées. Parce qu'il y avait un grand... comment on appelait ça ?
À l'exposition universelle.
Ils n'ont jamais été acceptés.
Par exemple, Manet n'a jamais été...
Accepté. Et Van Gogh, il est mort dans la misère.
D'abord, je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous pensez globalement de l'impressionnisme ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez ou pas ?
Alors, moi, je suis pas très peinture, mais c'est vrai que l'impressionnisme, c'est vraiment le courant qui m'intéresse. J'adore les jeux de lumière qui sont notamment proposés par certains peintres comme Renoir, Monet ou Pissarro. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui les rares peintures que je me déplace pour aller voir.
Et est-ce que vous avez une peinture que vous préférez par rapport aux autres ?
Alors bah, du coup, je viens de découvrir dans le musée Camille sur son lit de mort par Monet. Et j'avoue que j'ai été vraiment prise par quelque chose quand je l'ai vue. J'ai eu l'impression de voir une femme dans un ange avant même de voir le nom du tableau. Donc je dirais que c'est celle-ci.
Qu'est-ce que ça dégage selon vous vraiment ce tableau ?
J'ai vraiment eu l'impression de voir une femme dans un ange en fait. Et ça m'a pris tout entière. Je voyais cette femme, je voyais ses expressions faciales alors que pourtant c'est quelque chose qui est très voilé. Et j'avais l'impression d'être avec elle. Donc c'était vraiment ressentir la présence de la femme.
Bah, merci beaucoup.
Je m'appelle Amy Farnier. Pendant notre voyage au musée d'Orsay, j'ai vraiment apprécié la diversité des œuvres, des artistes, des tailles, des couleurs, tout en restant sur des œuvres d'impressionnistes. L'architecture du musée est tellement impressionnante et majestueuse. J'ai aussi remarqué que le musée était un lieu d'étude pour les étudiants en art qui venaient étudier et dessiner ces œuvres historiques qui retracent l'histoire de l'art. Le musée d'Orsay est vraiment un lieu que je voulais visiter et je ne suis pas déçue d'y être allée.
Je m'appelle Louise Bondono, je suis en 4e 4. Ce qui m'a le plus plu au musée d'Orsay, c'est que ce musée a une histoire. C'était une gare qui a été abandonnée car les voies étaient devenues trop courtes. Elle est ensuite devenue un entrepôt pour les détenus de la Seconde Guerre mondiale, puis un musée. J'adorais toutes les œuvres de Claude Monet, toutes les statues, les divers étudiants d'art qui étaient là pour dessiner les statues ou les œuvres.
Je m'appelle Danae et je suis en 4e 4 au collège Armorin dans la Drôme. Ce que j'ai aimé au musée d'Orsay, c'est l'architecture du bâtiment, le fait qu'il soit aussi haut de plafond et l'acier joue un rôle important. J'ai bien aimé toutes les personnes impliquées dans les œuvres, comme les étudiants en art. En dehors de l'architecture et des personnes, il y avait aussi toutes les œuvres variées en termes de forme, de couleur, de style, d'artiste, de lumière et d'émotions transmises. Bref, c'est un très beau musée.
Je m'appelle Océane et je suis en 4e 4. Lors de ma visite, j'ai énormément aimé l'architecture. C'est un endroit impressionnant et vaste. Les peintures y étaient magnifiques, notamment une qui m'a tout de suite plu, qui se nomme « Essai de figure en plein air, femme à l'ombrelle tournée vers la gauche ». J'ai été vraiment très impressionnée par la diversité des nationalités des visiteurs et par le fait que les salles du musée sont grandes et que l'on ne s'y sente pas étriqué.
Merci de nous avoir écoutés.
Bonjour, nous sommes 4e de 4e 4. Adem, Lucas, Léni, Lilian. Nous sommes allés à Paris au mois de mars 2025, en voyage scolaire. Nous avons notamment vu le parc du Trocadéro et la tour Eiffel. Laissez-nous vous en parler de cette dame de fer. Elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889. Pour la construction, il a fallu 18 000 pièces de métal et plus de 2,5 millions de boulons.
Elle mesure au total 320 mètres. Pour monter en haut de la tour Eiffel, il faut monter 1665 marches. Il faut être sportif. L'inauguration a eu lieu le 15 avril 1889. Il y a eu plus de 120 millions de personnes qui sont venues l'admirer. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le musée Clémenceau. Nous allons vous le présenter.
Bienvenue au musée Clémenceau à Paris. Avant d'être un musée, c'était la maison de Georges Clémenceau. Nous sommes entrés par une grande porte bleue. Cette porte menait à une cour intérieure. Au premier étage, on entre chez Georges Clémenceau. À gauche, une salle à manger où se trouve une table et son canapé. À côté du salon, une porte mène à sa salle de bain. Et dans la salle de bain, la brosse à dents de Georges Clémenceau. Elle est encore là. Elle était toute noire. Nous avons observé dans sa chambre un petit bureau, son lit avec une tête de lit sculptée en dragon. La décoration de sa chambre, qui était à la mode à cette époque, présente beaucoup de motifs chinois.
Par la fenêtre, nous pouvons observer son jardin avec une fontaine au milieu, des galets au sol. C'est le luxe d'avoir un jardin en plein Paris. Et à l'étage, il y a une exposition très intéressante sur la vie de Georges Clémenceau. Il y a des panneaux sur ses combats politiques, comme par exemple la défense du capitaine Dreyfus, et des photos avec son grand ami Monet.
Nous voulons remercier France de Radio Saint-Ferriol,
Madame Garret, notre prof de français,
et Madame Chambert, la documentaliste.
Merci de nous avoir écoutés.
C'était Enquête d'Histoire.
Figure du 19e siècle.
Un podcast fait par les 4e.
Les 4e
du Collège Armorin.
Radio Fabrique.
Tout le monde peut faire de la radio. Sur Radio Sans Feuilles.